On dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons avec En Dialogue sur les ondes de Radio-VM. Je m'entretiens aujourd'hui avec Marc Chevrier, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Il s'interroge aujourd'hui sur le subjectivisme radical qui caractérise de plus en plus nos sociétés modernes. Ainsi, l'individu se veut la mesure de toute chose, au mépris souvent du sens commun, de la vérité, de la décence ordinaire et de la médiation des institutions. Dans un repli du moi qualifié de narcissique, cet individu en vient graduellement à ne plus se définir que par ses griefs et son ressenti, car sa vie est de plus en plus vécue sur le mode de la vulnérabilité.
Marc Chevrier, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Et merci de nous accorder cette troisième entrevue sur le même sujet du subjectivisme radical, qui est sans doute une des caractéristiques les plus marquantes de notre modernité. Deux, trois mots sur vous, juste pour récapituler. Vous avez une formation en droit de l'Université de Montréal, parfaite ensuite à l'Université de Cambridge, et un doctorat en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Et depuis 2002, vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Vos intérêts sont extrêmement variés. Ça va de la politique au Québec, au gouvernement représentatif, en passant par la littérature et la philosophie politique. Bref, on a un homme de la Renaissance devant nous.
Ah, écoutez, j'aimerais bien, mais c'est un idéal tellement difficile à atteindre. Mais vous savez, quand on enseigne la science politique, on n'a pas le choix que de considérer bon nombre de matières et de sujets. Ça ne veut pas dire qu'on excelle dans chacun de ces sujets qu'on aborde. On ne doit seulement que les survoler, malheureusement.
Effectivement, et un idéal, de toute façon, est par définition inatteignable. On tend vers l'idéal. Heureusement qu'on ne coïncide pas trop avec. Les deux dernières fois, Marc Chevrier, on avait parlé de la fragilité, la vulnérabilité de l'individu. On le voyait dans certains exemples, notamment sur les campus universitaires états-uniens, un peu partout ailleurs aussi au Canada. On a parlé de la victimisation, on a parlé du manichéisme entre les bons et les méchants. Le monde est lu de façon noire ou blanche, de façon très simpliste. L'émotion est prévaut sur toute forme de rationalité, le ressenti sert de vérité. Vous avez également cité deux grands auteurs, Christopher Lash et Alasdair MacIntyre, qui jouent un peu dans ces diagnostics, non?
Oui, mais ils ne disent pas tout à fait la même chose. Je ne veux pas dire pour autant qu'ils se contredisent, mais évidemment, ils ont des approches très différentes. Lors des deux précédents entretiens, nous avons surtout parlé du diagnostic tiré par le sociologue américain Christopher Lash, connu pour ses analyses notamment sur ce phénomène qu'il appelait le narcissisme. Mais le voyant sociologue, c'était pas seulement une caractéristique du psychisme d'individus qui peut intéresser la psychologie ou la psychanalyse, mais il voyait là un phénomène carrément social qui selon lui caractérisait la société américaine. Et il est revenu sur cette idée, mais pour la raffiner plus tard dans un livre intitulé en français « Le moi siégé », peut-être pour préciser son idée. Alors, parce que souvent le narcissisme, lorsqu'on en parle, on a tendance à le confondre avec le simple égoïsme. Et c'est pas tout à fait ça que Lash veut dire. De l'égoïsme, il y en a toujours eu dans les sociétés, et c'est pas un phénomène très nouveau. Lash, dans son livre « Le moi siégé », a voulu comprendre justement qu'est-ce qui a propagé, encouragé ce qu'il appelle donc le moi siégé. Donc c'est une façon pour lui de comprendre les manifestations contemporaines du narcissisme. Et pour lui le narcisse ou la personnalité narcissique, c'est une personnalité qui au fond a mal vécu sa séparation avec la mère. Et il peut réagir de deux façons. Il peut soit chercher le contrôle absolu et se voir voir comme un moi finalement qui conquiert, qui impose sa volonté et qui nie même l'altérité soit des autres ou du monde. Et donc ça, c'est une des premières figures qu'il appelait d'ailleurs le moi impérial. Et l'autre figure, c'est l'inverse, c'est finalement celui du moi, mais qui finalement nie toute forme de séparation, cherchant sans cesse avec les autres et le monde une espèce de symbiose, une unité qui serait certes menacée par certains éléments dans la société, mais vers lequel, depuis son enfance, il aspire à revenir.
Marc Chevrier, dans ses analyses de Christopher Lash, du moi assiégé et du narcissisme, d'une façon ou d'une autre, quand on parle d'un moi impérial ou d'un moi fusionnel, l'idée de relation est la première victime de cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation parce qu'il n'y a pas d'autrui. Il n'y a que le nous indistinct où il y a le moi qui phagocyte tout ce qui est autrui.
Oui, ou c'est le moi qui réduit le rapport avec autrui à un rapport instrumental, dans le cas du moi impérial, ou alors c'est un moi qui justement nie la réalité même du conflit. Il y a du conflit parce qu'il y a aussi de l'altérité humaine. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a effectivement une certaine inaptitude à entrer en relation et à forcer les choses d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est ce que documente Lash, parce que Lash a une très grande culture, à la fois philosophique, psychanalytique, et c'est un sociologue, donc il s'intéresse aussi aux manifestations de ce qu'il a constaté par des instruments tirés de la psychanalyse. Et il s'intéresse, par exemple, à l'évolution de la famille, comment la société de consommation favorise ce narcissisme, même à l'esthétique des années 50, 60, très minimaliste, qui veut briser tous les codes pour mousser une expression de soi sans contrainte. Bon, tous ces phénomènes-là l'intéressent. Et il va même parler du politique, à la fin de son livre, il va même diviser finalement les idéologies politiques en fonction justement du rapport au moi. Finalement, il couvre beaucoup dans son ouvrage.
C'est intéressant ce que vous dites, Marc, ça me fait penser au mot original. Tout le monde veut être original, sauf qu'on oublie que le mot original tire son origine du mot justement origine. C'est pas du tout original d'être dans l'origine.
Non, mais on peut aussi croire être original en oubliant ses origines. Et souvent, la personne qui crée une œuvre originale, c'est celle qui peut-être nous rappelle la véritable origine de son art ou du thème dont il traite à travers son œuvre.
Alors parlons de subjectivisme radical qui est notre sujet, c'est la troisième semaine dont on en parle, Marc Chevrier. Est-ce qu'on peut dire que le moi d'aujourd'hui, cet hypersubjectivisme, repose en fait sur l'auto-engendrement, l'auto-fondation, je suis ma propre origine en un sens?
Oui, évidemment, il y a beaucoup de ça dans la culture contemporaine. Cela dit, si on gratte un peu, on s'aperçoit que même les philosophes qu'on dit modernes, donc on entend le sens moderne, c'est-à-dire après la Renaissance, vont aussi essayer de trouver d'autres fondements à l'être humain que ceux qu'on avait accoutumé d'utiliser dans la pensée classique, c'est-à-dire celle des anciens ou celle du Moyen-Âge. Et on va opérer certaines ruptures et on va essayer finalement de trouver un fondement qui paraît certain. Et chez certains penseurs modernes, je pense à Hobbes par exemple, on va réduire finalement la richesse de l'âme humaine à des besoins élémentaires, mais que l'on croit universels, parce que finalement, ils participent de l'existence de chacun, mais au sens minimal du terme. C'est-à-dire, par exemple, pour Hobbes, ce qui est universel, c'est le désir de survivre et de voir sa sécurité personnelle et physique. Alors, si on en fait le principal mobile de l'être humain et on exclut tout le reste, on peut trouver là, bon, une espèce de fondement certain pour construire ensuite ce que devrait être la cité, mais c'est un fondement peu appauvri.
Mais Marchand, oui.
Pardon.
Allez-y, pardon.
Appauvri. Et ensuite, bon, on va introduire des fictions contractualistes, c'est-à-dire qu'on va imaginer que l'État est fondé à partir d'individus isolés qui ont déjà tous pourvu de leur raison et qui vont faire finalement un calcul en se disant, ben finalement, plutôt que de se faire la guerre entre nous, de nous voler les uns les autres, on va entrer dans l'État et puis voilà, c'est l'idée du contrat. Contrat politique, avec toutes sortes de variantes de philosophe à l'autre, mais la prémisse du raisonnement, c'est qu'on est déjà des individus possédant déjà la raison, mais nous sommes dans un état de nature où nous faisons la guerre, nous en sortons, mais on ne voit pas trop comment l'individu arrive, comment l'individu se forme, comment en vient-il à obtenir de la raison.
Alors justement... Pardonnez-moi, Marc Chevrier, mais là, je reviens à cette idée de relation. On parlait du moi assiégé et du moi narcissique, et où la relation est la première perdante là-dedans. Je veux dire, j'aurais pu dire dépendance également. Je veux dire, moi, en tant qu'individu, qu'on parle de Hobbes ou d'Aristote ou n'importe qui d'autre, je ne peux pas me créer moi-même. Je suis dépendant d'abord de parents, d'une famille, d'un milieu, d'une culture, d'un gouvernement, etc. Si je reviens à Hobbes, comme l'homme est un loup pour l'homme, c'est d'ailleurs sa formule, ma dépendance devient délétère, elle peut être dangereuse, il faut calculer, je veux être dépendant, mais pas trop en même temps.
Oui, mais effectivement, là, début de l'entretien, vous avez évoqué deux intellectuels de renom, bon, Christopher Lash, dont on vient de parler, et Alasdair MacIntyre, dont on a peu parlé. Donc lui, c'est un professeur d'origine écossaise, mais qui a fait une bonne partie de sa carrière aux États-Unis. On le considère comme un penseur, un philosophe spécialisé dans le domaine de la philosophie morale, et on en fait souvent un des grands philosophes politiques contemporains avec, par exemple, Charles Taylor, qu'on connaît bien, parce qu'il est québécois-canadien, et d'autres, Michael Walzer, etc. Et justement, ça, c'est un des grands thèmes privilégiés par Alasdair MacIntyre, c'est l'idée même de la dépendance. Et justement, il nous y conduit, mais d'une façon assez étonnante. J'ai lu un de ses derniers livres que j'ai trouvé très rafraîchissant. Et il commence sa discussion avec un des grands thèmes de la philosophie classique, c'est le rapport entre l'homme et les animaux.
Ah bon?
Et justement, il part de cette grande question, à savoir que les hommes sont aussi des animaux.
Oui.
Et qu'au fond, la nature animale de l'homme lui permet de comprendre la part qui joue la dépendance. Et comment la dépendance est un volet essentiel de son humanité et de son animalité. Et que, au fond, pour bien comprendre comment parvenir à l'indépendance qui est emprisée à notre époque, il faut savoir aussi reconnaître que la dépendance est constitutive de notre être et même certaines vertus passent par la reconnaissance de cette dépendance. Et justement, pourquoi il passe par les animaux? C'est parce que, évidemment, c'est une ancienne discussion, quelle est la nature de la parenté qu'on observe entre certains animaux et l'homme. Et on sait maintenant, mais déjà les anciens le voyaient un peu, Aristote a beaucoup écrit sur les animaux, on a même réédité ses ouvrages de biologie qu'on considère encore aujourd'hui comme des ouvrages fourmillants d'observations très perspicaces. Et donc, les anciens le savaient déjà, mais on veut le savoir de mieux en mieux avec le développement de l'éthologie animale, l'étude des animaux, que les animaux ont des capacités assez étonnantes de communication, de coopération. Effectivement, parmi chez les animaux les plus évolués, on s'aperçoit que l'éducation des enfants est primordiale parce que justement, elle est dépendante. Donc, il faut petit à petit que le petit dauphin, le petit chimpanzé, le petit gorille apprennent progressivement l'autonomie et ce qui se fait finalement par toutes sortes de moyens que certains, dont disposent certains animaux. Et comme l'observe Alasdair MacIntyre, bon, les animaux, même les plus évolués, ne semblent pas avoir tout à fait les capacités langagières propres à l'être humain, mais ils sont engagés, comme les êtres humains, justement, dans l'apprentissage de la vie en communauté, de l'entraide pour la survie. Les animaux les plus évolués, pense Alasdair MacIntyre, en se basant sur des travaux scientifiques, sont capables aussi, finalement, de chercher des biens, de poursuivre certaines activités, à tel point qu'on pourrait se demander s'ils n'ont pas déjà une certaine capacité de raisonnement pratique. Et donc,
Alors, excusez-moi, Marc Chevrier, mais il y a quand même quelque chose. Pardonnez-moi, Marc, je vous presse parce que le temps me presse également, notre temps nous presse, il nous reste 12 minutes. Pour que l'animal ou que l'homme puisse, en grandissant, se séparer peu à peu de ce dont il est dépendant, ça demande, vous le disiez même, un langage. Et au-delà du langage, ça demande une médiation. Parce qu'entre vous et moi, il y a des paroles. Entre vous et moi, il y a un micro. Entre vous et moi, il y a un tas d'intermédiaires qui font que vous pouvez parler, je vous écoute, je vous réponds, vous m'écoutez. Est-ce qu'on on revient au subjectivisme radical qui est le sujet de cette troisième semaine avec vous, Marc Chevrier? Ce subjectivisme radical, essaie-t-il de s'affranchir de la médiation, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit langagière, je ne sais pas, moi.
Oui, mais justement, pour revenir à Alasdair MacIntyre, parce que MacIntyre parle de la question de la médiation.
Ah bon, d'accord.
Et justement, peut-être une des raisons pour lesquelles la médiation, à notre époque, passe si mal, est rejetée d'emblée, c'est qu'au fond, la source de la médiation, de la nécessité de la médiation, c'est l'état de dépendance où nous sommes.
Voilà.
Et évidemment, la dépendance, il y a deux différents types de dépendance. Il y a des dépendances qui sont liées à les âges de la vie. L'enfant dépendant comme le vieillard. Il y a des dépendances accidentelles. Avoir un handicap, tomber malade. Et il y a des dépendances qui sont structurelles. C'est-à-dire que même si on devient un adulte autonome, capable de jugement pratique, etc., on est encore, malgré tout, dans une relative dépendance. C'est-à-dire qu'au fond, on a acquis cette autonomie du jugement, cette autonomie pratique, en sortant tranquillement, progressivement, de toutes sortes de dépendances, liées notamment à l'âge infantile, grâce à des médiateurs multiples ou à des médiations symboliques qui ont jalonné notre vie. Donc, l'hypothèse que fait MacIntyre, c'est qu'en fait, la philosophie politique et l'esprit contemporain se refusent à penser la dimension de la dépendance. Et parce qu'elle a comme portrait idéalisé de l'être humain un sujet justement affranchi de toutes ses dépendances et qui se glorifie justement d'être au-dessus de toutes ses déterminations. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant rejeter l'idéal de l'autonomie, mais il faut comprendre que l'autonomie est un état qui vient après avoir parcouru, je dirais, certaines épreuves où il faut apprendre à maîtriser dans l'intersubjectivité par toutes sortes de médiations nos dépendances qui nous définissent.
Si je vous comprends bien, Marc.
Des états normaux, bien souvent, de la vie.
Marc Chevrier, si je vous comprends bien, l'autonomie d'aujourd'hui veut se vivre par court-circuitage, en un sens? C'est-à-dire qu'il faut passer par des médiations pour peu à peu arriver à l'un, à l'unité, à je ne sais pas trop quoi, moi, à la communion. Mais est-ce qu'on pourrait dire que le péché d'aujourd'hui consiste à justement court-circuiter toutes ces étapes pour arriver à l'autonomie?
Oui, en fait, si vous parlez du terme de péché, bon, vous renvoyez un vocabulaire théologique. Mais justement, Christopher Lasch lui-même, c'est sa conclusion de son livre, il dit au fond, c'est sa conclusion assez surprenante de son livre Le Moi assiégé, oui. Si on veut sortir ou bien des deux formes de narcissisme dont j'ai parlé, il faut, dans ce cas-là, peut-être revenir, il le dit lui-même, à cette ancienne sagesse judéo-chrétienne où on admet que finalement l'être humain dans son moi profond est un être divisé, un être ambigu, un être qui a des manques, donc des dépendances, ce que finalement la pensée contemporaine, plutôt façonnée par ces deux formes de narcissisme, ne veut pas reconnaître.
Impérial et fusionnel.
C'est ça. Et ou alors, il y a une autre variante dont parle Christopher Lasch, c'est ce qu'il appelle l'idéal du l'ego rationnel, donc une espèce d'ego qui finalement, grâce à la science, à la rationalité, peut finalement maîtriser tous les affects humains. Et s'il y a des dépendances, ben, elles sont transitoires parce qu'elles seront corrigées grâce à la technologie, grâce au système social. Et donc ça, c'est ce qu'il appelle, au fond, ça correspond à une espèce de libéralisme progressiste qui s'est développé à partir du 19e siècle aux États-Unis et qui va marquer tout le 20e siècle, parmi lesquels il va compter même certains psychologues comme Frédéric Skinner, un behavioriste, pardon. Pouvoir penser l'être humain à partir de ses manques, de ses dépendances structurelles ou conjoncturelles, c'est peut-être une étape de la pensée que plusieurs ne veulent pas envisager, mais que c'est la conclusion de Christopher Lasch, et c'est ce sur quoi a travaillé Alasdair MacIntyre. C'est-à-dire qu'il s'est dit, comment puis-je penser cette dépendance? Et le chemin qu'il a parcouru, c'est de revenir finalement d'anciennes intuitions, celles d'Aristote et même celles de Saint Thomas, qui suit Aristote sur cette question-là.
Est-ce qu'au-delà, c'est l'idée de limite qu'on essaie d'annuler aujourd'hui ou pas? Le manque, veut dire je suis limité parce que j'ai des handicaps, j'ai des manques. La limite, est une notion qui est en perte de vitesse ou qui n'est pas de mode en tout cas aujourd'hui.
Oui, mais en fait le problème, c'est que d'une certaine façon, pour, je dirais pas non pas vaincre, mais pour maîtriser notre vulnérabilité, il faut savoir justement reconnaître ses limites.
Exact.
Car lorsqu'on agit dans l'ignorance de ses limites, c'est dans ce genre de situation-là où on crée des catastrophes, où on se met dans des situations de vulnérabilité qui sont néfastes. Parce qu'au fond, la vulnérabilité, la dépendance, elle devient humaine une fois qu'on la comprend, qu'on y consent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on reste passif. On peut au contraire, justement, c'est ça le but d'avoir des vertus, c'est-à-dire que les vertus nous aident à la fois à devenir autonomes, mais aussi à vivre les différentes formes de dépendance où nous sommes, où nous serons, parce que, comme le rappelle souvent MacIntyre dans son ouvrage, on peut, oui, à l'âge adulte, se croire invincible, mais un jour ou l'autre, on va vieillir, donc on va connaître la dépendance, et ou alors on va connaître la dépendance des autres. Et donc, il faut savoir faire face, et aussi apprendre à vivre dans ces dépendances, et sans pour autant se sentir moins humain parce qu'on est dans la dépendance.
Marc Chevrier, il nous reste 3 minutes et demie à peine, ça passe très vite en si bonne compagnie. En 3 minutes, on est en période de pandémie. Une crise révèle bien des choses. J'ai l'impression que tout ce que vous nous racontez depuis 3 semaines éclate au grand jour avec cette pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez?
La pandémie agit comme un révélateur,
exact,
et une épreuve. C'est-à-dire que, nous vivions jusqu'à l'arrivée de cette pandémie dans un monde où on faisait confiance au système économique, au système social, au système politique pour distribuer les biens, les réguler. Et s'il y avait quelques problèmes, il y avait quelques spécialistes qui sont là pour nous trouver des solutions. Alors que là, on fait face à un problème qui peut pas être solutionné juste par quelques d'une chose qu'on oublie souvent à notre époque, c'est qu'il y a un bien commun. Et qu'un bien commun suppose des sacrifices. Faire des sacrifices renvoie justement à nos limites, à notre capacité à comprendre nos vulnérabilités et l'interdépendance entre ces différentes formes de vulnérabilité. Et ensuite, c'est une activité pratique que chercher le bien commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de beau théorème, il faut faire des arbitrages, parfois on a l'impression aussi de naviguer à vue, et on le reproche d'ailleurs souvent aux politiciens d'improviser, mais en fait c'est un domaine où on ne peut pas tout à fait avoir des lignes directrices parfaitement claires. Et même si on s'appuie considérablement sur la science médicale, entre autres, pour essayer de sortir de ce mauvais pas, il y a quand même des décisions qui relèvent toujours de la raison pratique et que la simple expertise scientifique n'arrive pas à trancher, elle-même étant divisée sur la portée de sa propre expertise.
Donc, Marc Chevrier, on va devoir interrompre ici. Je rappelle que vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Vous nous parliez de subjectivisme radical. C'était le troisième volet d'une série amorcée donc il y a deux semaines. Je vous remercie infiniment pour ces propos forts et éclairants. Nous allons réfléchir là-dessus, mais pour l'instant, nous allons devoir nous quitter. Merci infiniment, Marc Chevrier.
Merci bien.
Voilà, c'est la fin de l'émission. La mise en onde de Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.